toutes les scènes. Dis-moi encore que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même. Et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème. Dis-moi encore que tu m'aimes.
Bonjour à toutes et tous, des milliers de manifestants cet après-midi dans les rues de Bruxelles pour soutenir le peuple palestinien et réclamer la fin de la guerre à Gaza. Des citoyens, des ONG, des associations, des syndicats ainsi que des membres d'organisations juives, toutes et tous entendent tracer une ligne rouge face à la souffrance du peuple palestinien. C'est ce que souhaitaient les organisateurs. Cette manifestation est partie de la gare du Nord pour rallier le quartier européen. L'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils en Israël. C'est la dernière déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Après les bombardements iraniens de la nuit dernière sur l'État hébreu, des missiles ont touché des immeubles résidentiels près de Tel Aviv. Le dernier bilan fait état de 10 morts, 4 disparus et près de 350 blessés. Israël continue d'attaquer des sites militaires et nucléaires iraniens ainsi que des dépôts de carburant dans plusieurs villes du pays. Et cet après-midi, un média iranien avance un premier bilan. Depuis le début de l'offensive israélienne, au moins 128 personnes auraient été tuées en Iran et quelques 900 autres blessées. Le président Emmanuel Macron vient d'arriver au Groenland pour montrer la solidarité de la France et de l'Union européenne avec, sur le sujet de la souveraineté et de l'intégrité de ce territoire autonome danois. On le sait, le Groenland menacé d'annexion par le président Donald Trump. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, compte lancer un appel en faveur d'un très grand effort de réforme. Tous les acteurs seront impliqués, des mutualités aux patients en passant par les organisations de médecins et les pharmaciens. Annonce faite ce dimanche à la télévision flamande. Si la Belgique veut conserver un système de soins de santé payable, il faudra réfréner notamment le recours trop facile aux urgences ou aux postes de garde des médecins généralistes, a expliqué le ministre Verheugen. En tennis, on salue le deuxième titre depuis le début de cette saison, le 10e de sa carrière pour Elise Mertens. La Belge a remporté cet après-midi le tournoi sur gazon de Rosmalen aux Pays-Bas. Zizou Berks est en finale lui aussi. Il est mené 1-7 à rien par le Canadien Gabriel Diallo. Merci d'être avec nous.
Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu.
Merci beaucoup pour ce condensé de l'actualité. On retrouve la rédaction à 17h pour le Grand Journal.
En ce moment, la Volkswagen ID.4 dans sa nouvelle finition Business Sport est à partir de 349€ par mois hors TVA en renting financier pour les professionnels. Info sur volkswagen.be.
La première,
16h-17h, samedi et dimanche,
les podcasts de La Première.
Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute à tout moment sur La Première. Nous allons choisir des podcasts pendant une heure, choisir des podcasts avec soin, bien évidemment, hein, comme on choisit un bon magazine, tranquillement, chez vous à la maison, curieusement, si avec le sourire, et puis bonne route également si vous êtes en déplacement pour l'instant. Ce dimanche, encore un petit peu de nuages au-dessus de nos têtes, mais je peux vous dire que ça se profile en mode été, hein, avec beaucoup de soleil et des températures qui vont grimper, hein, à partir de mardi, vous voilà prévenus. On commence avec une question forte, intime, universelle. Peut-on être femme sans être mère? C'est le point de départ de notre première écoute. Voici le podcast de Tendance Première. Peut-on être femme sans avoir d'enfant? Cédric Wautier et Véronique Thiberguin ont tendu le micro à Catherine Gauthier. Elle explore la maternité, ou plutôt son absence, et donne la parole à celle qui affirme simplement « Je pense que je n'aurai pas d'enfant ». On écoute cet extrait.
J'ai 37 ans et je pense que j'aurai pas d'enfant. J'ai pas dit que j'en veux pas, j'ai dit que j'en aurai pas. Catherine Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Cette phrase, on la retrouve au début de ce roman graphique, magnifique roman graphique que vous nous proposez. Il s'appelle « Je pense que j'en aurai pas ». C'est publié aux éditions Équateur. C'est évidemment un roman qui pose plein de questions autour de la maternité ou non, autour du choix ou non, autour du poids aussi de l'entourage ou non, au poids de nos sociétés. C'est un bouquin qui m'a touché parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent pour l'instant, enfin, des femmes qui osent prendre la parole, qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on m'impose, depuis que je suis toute petite, de réfléchir à la maternité? Pourquoi est-ce que, insidieusement, depuis que je suis toute petite, je pense qu'un jour, je rencontrerai un homme et qu'on aura des enfants ?» Cette question, ça a été la vôtre aussi, hein, toute petite, vous avez été biberonnée, comme tout un chacun, dans ce questionnement, dans cet imaginaire collectif de « un jour, je rencontrerai quelqu'un et j'aurai un enfant ».
Oui, ben en fait c'est un peu le chemin tout tracé en fait que collectivement on nous impose, alors que finalement il y a plein d'avenues possibles, donc on n'est pas obligé de tous suivre le même parcours.
Mais pourquoi collectivement, qui impose ça selon vous?
Ben, je pense qu'il y a un certain atavisme en fait familial et social. C'est un peu la cellule familiale est tellement importante en fait dans notre société. T'sais, même nous, nos politiciens parlent des familles toujours dans leur discours politique. Donc c'est quelque chose en fait qu'on engrange inconsciemment en fait. Puis en fait, je pense que dès qu'on est enfant, on fait partie d'une famille. Donc déjà là, on est dans le moule.
Ouais.
C'est ça, et on veut le reproduire inconsciemment ou pas.
Et vous pensez que c'est possible aujourd'hui de ne pas le reproduire quand on a vécu en famille, quand on est entouré par ces injonctions? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible ou ça reste extrêmement compliqué de dire à son entourage « j'ai 37 ans et j'aurai pas d'enfant »
Non, je pense pas que c'est compliqué. En fait, moi, dans mon entourage, en fait, il y a tellement de femmes à qui, qui n'ont pas d'enfant. C'est pas compliqué, en fait, c'est juste... Ça bouscule un peu peut-être, en fait, de sortir de cette normalité-là. Mais en fait, c'est totalement valide comme option.
Ouais. Alors ce bouquin, je pense que j'en aurai d'autres. Eh bien, c'est votre vie, hein, quelque part. Votre réflexion ou vos réflexions tout au cours de votre vie. Adolescente, vous me disiez, et je trouve ça très intéressant, je n'ai pas pensé à la question de la maternité. En attendant, j'allais bien organiser ceci, j'allais faire ça en attendant. Mais on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend quand on est une jeune adolescente au Canada? Quels sont les rêves qui sont les vôtres à cet âge-là?
C'est sûrement les mêmes, même qu'ici, mais en fait, c'est de vivre, d'avoir une carrière, de voyager, de bâtir des amitiés, d'avoir des relations amoureuses. Je pense qu'en fait, justement, en attendant, on voit un peu comme la maternité, comme une finalité, en fait. Mm-hmm. Donc, il faut comme un peu se dépêcher de vivre plein d'expériences avant la maternité. Mais en fait, je pense que non plus, c'est pas le cas. Il y a des parents, en fait, qui même font le tour du monde avec leurs enfants, ça n'empêche pas d'avoir une carrière non plus. Mais dans mon cas, en fait, c'était ça. Là, je voulais... on dirait que je me posais pas trop la question. Je savais que j'allais avoir des enfants, mais plus tard. Donc, en attendant, j'allais vivre, tout simplement.
Plus tard, c'est quand vous alliez devenir adulte. C'est une grande question que l'on retrouve au début de votre ouvrage, de ce roman graphique. C'est la notion d'adulte. Hein. J'aurai des enfants quand je serai adulte, mais pour l'instant, je suis pas prête à être adulte. Ça voulait dire quoi, dans votre tête d'ado ou de jeune femme, être adulte?
Ben, je pense que c'est difficile, en fait, de se définir en tant qu'adulte quand on n'est pas parent. Ça peut paraître absurde, mais en fait...
Ah ouais, c'est lié?
On dirait sinon qu'on est encore... quand on est un jeune adulte, en fait, on n'est pas vraiment adulte, on est encore un peu adolescent, même quand on a, je pense, la jeune vingtaine ou quelque chose. Nos parents nous considèrent aussi toujours comme des enfants, donc on dirait que c'est comme dur de se démarquer un peu. C'est peut-être mon mode de vie aussi ou quelque chose, mais je pense que, tu sais, peu importe l'âge, en fait, même en ce moment, est-ce que je suis adulte? Je sais pas trop.
Mais j'en sais rien non plus. Moi, je suis papa de deux enfants. J'ai pas l'impression d'être adulte, en tout cas pas tout le temps.
Bon.
Mais ça, c'est autre chose. Dans votre parcours de vie, ben voilà, il y aura des rencontres avec un amoureux, vous allez être en couple, comme on dit, etc. Et là, le poids de l'entourage va évidemment être hyper important. Tu es ma fille, tu es en couple depuis longtemps. Quand est-ce que tu vas nous ramener un bébé à Noël? Tiens, la copine qui commence à avoir un enfant, ça suscite le questionnement en vous. Est-ce que quand vous étiez dans ce couple pendant des années, est-ce que quelque part dans votre bide, il y avait toujours cette question de « ben non, je crois pas que j'en ai envie, je crois pas que j'ai envie d'avoir un enfant maintenant, malgré les copines qui en ont, malgré le poids des parents, malgré les réflexions de la société? »
Dans mon cas, en fait, je pensais qu'on allait avoir un enfant, en fait. Mm-hmm. Je le voyais, mais je voulais pas tout de suite, en fait. Justement, je voulais profiter de mon couple, je voulais vivre un peu toutes ces expériences-là. Mais c'est vrai que la pression sociale est tellement forte, en fait. Nous, on a emménagé dans un trois pièces, donc il y avait une pièce de libre. Alors, tout le monde, c'est la future chambre du bébé.
Ouais.
Puis on dirait que ça m'a mis un frein, en fait. J'étais là, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. On peut attendre un peu. Puis en fait, toute la charge mentale du couple aussi, qui retombe beaucoup sur les femmes. Donc, d'ajouter un enfant avec ça, par-dessus ça, en fait, je pense que ça l'a servi de me mettre un frein un peu.
Vous allez revenir aussi sur votre propre histoire familiale et découvrir pas mal de choses sur votre famille. Vous me dites, tiens, on oublie très souvent d'où on vient. On oublie le combat de certains aïeux ou aïeuls. On oublie aussi l'évolution de la société où pendant des années, on entendait au niveau de l'Église, c'est mieux que la femme meure en mettant au monde un enfant plutôt que de ne pas en avoir. Donner la vie, c'est incroyable lorsque c'est fait volontairement. Enfanter ne devrait pas être un sacrifice ni un devoir. Donc on se rend compte que la société évolue quand même. Mais elle évolue lentement. Et moi, j'étais très curieux de vous entendre, vous qui êtes canadienne, parce que très souvent ici, vu du côté européen, et Belgique en particulier, on se dit que sur des questions de société, les Canadiens, les Québécois en particulier, ont souvent une petite longueur d'avance. On vous sent plus impliqué ou plus, un peu plus libre d'envisager votre propre vie en fonction de vos propres convictions.
Oui, je pense qu'on est quand même très, très libéral, en fait, au Québec. Mm-hmm. On est très avancé sur plein d'aspects, notamment, justement, le droit des femmes. Oui, je pense que c'est plus accepté, peut-être, pour une femme, justement, de ne pas avoir d'enfant ou, en fait, d'avoir le choix. Mais, en fait, dans notre société, en ce moment, en fait, occidentale, on a le choix, justement, en tant que femme. Donc, c'est tellement un acquis important qu'il faut garder. Puis, justement, en fait, on a la liberté de choisir. Donc, on peut le faire et on doit y réfléchir.
Liberté grâce à quoi? Qu'est-ce qui a été mis en place au Québec pour favoriser, finalement, ce droit des femmes, pour que ces femmes se sentent enfin un peu plus libres, un peu moins corsetées dans ces rigueurs de la société?
Au Québec, en fait, le gros tournant, ça a été la révolution, tranquille. Donc, on s'est vraiment délesté du poids, en fait, du joug de la religion catholique qui, prônait vraiment la famille et puis faire des enfants. Donc, je pense que ça, il y a eu un gros changement, un gros virage au Québec. Donc, on en garde encore les échos, comme c'est justement avoir une famille reste vraiment la chose à faire, la chose normale, mais on s'est quand même détaché de tout ça en tant que société.
Catherine Gauthier, je rappelle le titre de ce bouquin, de ce roman graphique, je pense que j'en aurais pas assez publié aux éditions Équateur. À un moment, vous allez traverser une période plus compliquée, un burn-out, etc. Quand je vous suis, quand je vous lis, en fait, j'ai l'impression que dans votre cerveau, ça tourne tout le temps. Et que vous n'arrêtez pas depuis que vous êtes toute petite à vous poser 17 000 questions sans jamais trouver de réponse, mais toujours en cherchant. Est-ce que ce beau livre, c'est une manière pour vous, à un moment, d'arrêter de chercher et de poser votre cerveau en disant, mais tiens, qu'est-ce que je retiens de tout ça?
Oui, totalement. En fait, je suis quelqu'un de très introverti qui, toujours en réflexion, toujours en observation. Donc, je pense que, ce livre-là, donc la prémisse, c'était « J'ai 37 ans, je n'aurai pas d'enfant ». Alors, c'était vraiment de mettre sur papier toute ma réflexion, toutes mes questions. C'est une espèce de thérapie dessinée, si on veut. Mm-hmm.
Et de donner la parole aussi à d'autres femmes, parce qu'on va retrouver toute une série de témoignages de femmes qui ont décidé, par choix, et je dis bien par choix, et pas par nécessité ou par obligation, mais par choix de ne pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes, et en quoi est-ce qu'elles vous ont touché? Pourquoi c'était si important de leur donner la parole?
Oui, en fait, c'est pas tant par choix que des fois, c'est la vie, en fait, qui leur a imposé ça. Mais je trouvais ça vraiment important de montrer la pluralité, en fait, de toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants. En fait, moi, j'ai pas tant de drames dans ma vie. En fait, ça a juste été, je pense, un concours de circonstances. Mais il y en a pour qui ils n'ont pas d'enfants parce que c'est, en fait, des malaises physiques. Il y en a pour qui c'est justement rencontrer la bonne personne, mais au mauvais moment, ou que la personne a déjà des enfants. Donc, c'est tellement multiple, en fait, comme raison que je voulais venir, en fait, enrichir toute ma réflexion, en fait, et enrichir le livre avec ces témoignages-là.
Oui. Je me définis cependant en dehors de la maternité. Écrivez-vous et dessinez-vous. Je suis la fille d'eux, une sœur, une amie, une collègue, une artiste, une amoureuse, entre parenthèses parfois. Je suis une adulte, même si quelquefois j'en ai pas l'impression. Je suis seulement une femme qui ne sera pas une mère. Ça ne veut pas dire que je suis moins importante. La vie a juste fait en sorte que je me retrouve à contre-courant. On est à la fin du livre et vous parlez encore bel et bien de contre-courant, malgré tout ce qu'on vient de dire.
Oui, en fait, comme on disait, c'est ça. Je pense que dès qu'on déroge un peu de la normalité et des chemins tout tracés, on est légitime, mais on doit se le rappeler, en fait. On doit se rassurer de ben, « ça va, je suis importante, je suis une citoyenne, j'existe, je contribue, en fait. » Et puis, j'ai le droit d'être heureuse, en fait, tout simplement.
Oui. Et cette non-maternité, ce choix de ne pas avoir d'enfant, ou les circonstances de la vie qui vous ont amené à ne pas avoir d'enfant, c'est bon de rappeler. Parce qu'on les entend pas souvent, ces femmes qui font le choix, et on les entend pas dire « je suis heureuse dans mon choix ». Comme si cette société disait « enfin, une femme qui n'est pas mère, c'est quand même pas normal, il te manquera toujours quelque chose, tu n'auras pas connu la maternité, oh, une femme c'est fait pour ça ». Or, vous dites « je suis heureuse ».
Ben oui, en fait, totalement. Comme je dis dans le livre, ce manque-là, je l'ai pas, en fait, parce que j'en ai pas eu d'enfant, donc je sais pas, en fait. Il y a pas de morceau manquant. Je suis complète comme je suis, donc oui, je pense qu'on peut totalement se définir, en fait, et être heureuse en dehors de la maternité.
Ce livre, ce roman graphique, je pense que j'en aurais pas, il est sorti il y a quelques semaines de cela. Je suppose que vous avez eu des rencontres avec le public, des dédicaces, des signatures, etc. Que vous disent les femmes et les hommes, parce que ce livre, il est à faire lire par les hommes aussi, je trouve ça très important que les hommes puissent lire ça également. Qu'est-ce qu'ils vous disent de manière générale?
Il y en a énormément qui me remercient, en fait, de leur avoir donné une voix, de leur avoir donné, justement, d'avoir fait briller la lumière un peu sur en fait, des femmes qui vivent dans les mêmes circonstances que les miennes. C'est ça, je pense que... elles ont besoin de se sentir comprises, se sentir importantes, en fait, tout simplement. Puis, vous le disiez, en fait, oui, les hommes aussi se retrouvent, en fait, dans cette réflexion-là. Je pense que pour eux, la pression sociale est peut-être un peu moindre parce qu'ils ont moins, là aussi, ils peuvent avoir des enfants beaucoup plus tard, donc ils sont moins confrontés rapidement à se définir autour de la parentalité, mais ça les touche également.
Oui. Aujourd'hui, il y a toute une série d'études qui remettent en cause les fameuses horloges biologiques, etc., 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 et on donne peu la parole. On essaie de le faire dans cette émission, on l'a fait il y a un petit mois de cela, où on remettait aussi en question des certitudes, les « on dit ». Une femme, après 35 ans, ne peut plus avoir d'enfant parce qu'il risque d'être handicapé, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un peu plus la parole à ceux et celles qui, aujourd'hui, eh bien, proposent des études et des études sérieuses qui remettent cela en question?
Ben, je pense qu'ils vont devoir s'adapter, peut-être changer le terme aussi. Au Québec, en fait, on appelle ça une grossesse gériatrique après 35 ans. C'est brutal.
Ouais, c'est malin.
Mais en fait, c'est que la société a évolué, je pense. Les femmes veulent une carrière épanouies, en fait, veulent s'épanouir dans leur carrière avant d'avoir des enfants, ce qui fait qu'elles repoussent l'âge d'avoir des enfants. Mais en fait, c'est totalement valide. C'est sûr que physiquement, c'est un peu plus dur d'avoir des enfants après 35 ans, mais c'est possible. La science vient appuyer ça aussi. Il y a de plus en plus, en fait, au Québec, même il y a beaucoup de programmes de fécondation in vitro qui sont subventionnés par le gouvernement. Donc, moi, je dis, pourquoi pas, allons-y. En fait, si on peut vivre toute une vie avant de s'épanouir, puis de passer à la vie de famille, allons-y.
Je pense que j'en aurai pas. C'est donc un roman graphique. C'est pas un livre, à l'inverse d'autres bouquins qui sortent et qui évoquent cette même thématique. J'ai l'impression, en tout cas après l'avoir lu et parcouru, que c'est pas un livre de combat. Et que c'était important de ne pas être une combattante de la cause, mais simplement une témoin de cette cause.
Oui, non, c'est exactement ça. Je voulais rien revendiquer, en fait. Je voulais simplement exposer, en fait, une situation, exposer mes réflexions, et puis y aller tout en nuances, tout comme à l'image du livre qui est en dessin, donc en noir et blanc, tout en nuances de gris. Ouais. En fait, je pense que mon propos est nuancé également.
Peut-on être femme sans avoir d'enfant? C'est la question que l'on retrouve en quatrième de couverture. Vous ne donnez pas de réponse à cette question, en tout cas en quatrième de couverture. Mais c'est vrai que, eh bien, vous nous amenez, vous nous incitez à réfléchir à la question grâce à vos dessins, grâce à votre histoire, mais aussi grâce aux différents témoignages de femmes qui, eh bien, témoignent, expliquent simplement ce choix ou les circonstances de la vie qui font qu'elles ne sont pas devenues mamans, qu'elles sont femmes avant tout, mais pas mamans. C'est un superbe bouquin, sincèrement. Et c'est un homme qui le dit. Je pense que j'en aurais pas... C'est un peu bête de dire ça, mais je trouve que c'est important de se dire que ça m'a touché en tant qu'homme d'avoir le témoignage d'une femme qui a décidé de ne pas avoir d'enfant. Je pense que j'en aurais pas. C'est donc à découvrir aux éditions Équateur. Merci beaucoup, Catherine Gauthier.
Mais merci beaucoup pour cette belle rencontre.
Merci, à bientôt.
Extrait de Tendance Première, des mots sensibles, puissants et essentiels. Le podcast complet est à retrouver sur Ovio. Voici Lola Young sur la première avec One Thing, une voix brute et nue comme on l'aime.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna kick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live?
Avec One Thing. On passe au rayon gastronomie dans nos podcasts. L'histoire de la gastronomie, un podcast de Bientôt à Table. Sophie Mounz et Carlo Di Pasquale ont rencontré l'historien Loïc Bienassi. Ensemble, ils ont exploré ce que la gastronomie raconte de nous à travers les siècles.
Les podcasts de la première.
Incontestablement une encyclopédie désormais de référence pour comprendre et revivre cette grande histoire de la gastronomie, n'est-ce pas, Loïc ?
Ben, je l'espère. Une synthèse qui, à la fois, j'ai envie de dire, brosse un tableau général d'époque en époque, et puis avec tout un tas de focus sur certains chefs, certains lieux, certaines recettes, certains produits. Donc, l'idée, évidemment, on ne peut pas embrasser tous les sujets, mais quand même, un ouvrage dans lequel on peut picorer.
Mais dites-moi, d'abord, la question de base, quand on parle du terme gastronomie, au niveau de l'étymologie du mot, on pense comprendre l'idée, hein, mise en règle en quelque sorte de tout ce qui se passe par la bouche et finit par le ventre. Mais qu'est-ce que c'est la gastronomie aujourd'hui ?
Et plus jamais, c'est un mot qui arrive dans la langue française réellement avec un poème de Joseph Berchoux en 1801. On parle de la gastronomie et qui va tout de suite rencontrer un certain succès. Souvent, quand on parle de gastronomie, on pense haute cuisine. Mais il est vrai qu'on peut définir la gastronomie plutôt comme une manière d'édicter des règles hédonistes du bien manger. Et des règles hédonistes, je veux dire qu'il peut y avoir différentes façons d'appréhender le bien manger. Il y a le bien manger pour la santé, le bien manger, on va dire même moral, des règles morales. La gastronomie, c'est des règles, j'ai envie de dire, pour se faire plaisir. Et on a tout un tas d'auteurs, de gastronomes, qui, à partir du début du 19e siècle, notamment, on pourrait trouver des racines beaucoup plus anciennes. Mais on a coutume d'estimer que c'est à partir du début du 19e siècle que vraiment ce discours prend forme.
C'est ça. Mais alors, apprécier ce que l'on mange est une chose, mais faire partager aux autres par les mots les sensations d'une dégustation en est une autre. Et là, on touche à un autre point que vous évoquez dans ce livre, celui du discours gastronomique. Une passion française, vous l'écrivez d'ailleurs, avec d'ailleurs ses pères fondateurs qui ont été unanimement salués. On pense à Grimaud de la Renière et Brillat Savarin. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce discours gastronomique permette le système de pensée, finalement ?
C'est ça. Les pères fondateurs, les gastronomes, dans deux registres différents. Grimaud de la Reynière, Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière, il a notamment publié son Almanach des gourmands à partir de 1803. Et c'est vraiment la naissance, on peut dire, de la critique gastronomique. Il y avait un jury dégustateur. On a du mal à
Le père des guides.
Du guide, exactement.
C'est ça.
Non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il avait, par exemple, ce qu'il appelait l'itinéraire gourmand dans Paris. Et il évaluait les commerces, les restaurants, mais aussi tous les commerces de bouche. Et il donnait son avis sur leurs produits, il évaluait, il jugeait. Donc c'est vraiment la naissance de la critique gastronomique. Lui, ça, c'est ça, vraiment ce qui est son apport. Et puis on a Brillat Savarin, avec la physiologie du goût, qui paraît en 1825. Là, on est dans un autre type d'ouvrage. J'ai envie de dire, on philosophe.
C'est philosophe, finalement. Oui, il explore les aspects de la nourriture, du goût, de l'art aussi.
Exactement. Et ça, absolument. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, c'est se saisir du bien manger comme un sujet sérieux. Et puis, autonome. C'est-à-dire que, vraiment, le sujet du livre, c'est le bien manger. Et ça, c'est nouveau aussi. Un livre entièrement consacré à cela. Donc, voilà pourquoi ce sont les pères fondateurs. Parce qu'ils ouvrent un sillon qui, finalement, va être creusé en permanence jusqu'à aujourd'hui.
Et en faisant finalement de cette gastronomie un objet de culture. Parce que souvent, on dit « Oh, vous faites une émission de cuisine comme si c'était une sous-thématique. » Or, on est quand même là en plein dans l'essence même de la culture de la civilisation.
Absolument. C'est-à-dire que quand on est... C'est notamment le cas, là, c'est très clair chez Brillat Savarin. C'est-à-dire que en se permettant de faire de la cuisine, de l'alimentation, le sujet d'un ouvrage, de discuter des pages durant de ce qu'est ce bien manger, c'est vraiment le faire de cette gastronomie un champ autonome de la culture.
Si je me souviens bien.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau.
Si je me souviens bien, Loïc, dans la définition de Brillat Savarin, je ne dis pas que c'est une définition universelle, la gastronomie, c'est au sens beaucoup plus large que le bien manger de qualité gustative. Il entend par gastronomie un peu ce qu'on dirait aujourd'hui entre diététique et un mot valise dans lequel il y aurait diététique, nutrition et gastronomie. C'est ça son propos.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et c'est le sujet de son livre. C'est-à-dire que j'expliquais que finalement la gastronomie c'est des règles du bien manger hédoniste, mais précisément la réflexion de Brillat Savarin est même plus large que cela, parce que il s'intéresse à toutes ces dimensions, comme vous venez de le dire. Et c'est ça finalement qui est nouveau, et encore une fois vous avez raison, c'est l'entrée dans le champ, alors de manière ambiguë, parce que c'est presque un combat qui est toujours en cours, de faire reconnaître la gastronomie comme finalement digne de d'être par les instances, on va dire, notamment officielles. Je pense à différents dossiers, comme la reconnaissance du repas gastronomique des Français, l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On voit bien que les instances officielles, il y a toujours, donc je parle du ministère de la Culture, hein, mm-hmm. il y a toujours une réticence vis-à-vis de la gastronomie, mm-hmm. et ça perdure. Donc c'est finalement un combat qui a débuté.
D'ailleurs, la gastronomie ne figure pas sur la liste des arts majeurs, finalement. Ça, c'est étonnant, quand même, si on s'y penche.
Non. Et d'ailleurs, alors, on parlait de Carême, oui. mais voilà bien quelqu'un qui, à travers ses ouvrages, c'est peut-être l'une de ses contributions importantes, d'ailleurs, à lancer ce combat de reconnaissance pour les chefs, ouais. les cuisiniers en tant que profession, mais aussi de montrer que la cuisine méritait justement d'être considérée comme, allez, on va dire, comme un art. Voilà, exact. C'était un peu ça son cheval ouais. de bataille.
Mais d'ailleurs, pour revenir à Carême, il considérait les chefs comme des artistes. Il voulait les élever dans une hiérarchie des métiers. C'était très honorable et presque même...
Absolument. Et ça, c'est un combat qui va se prolonger, qui va notamment à la fin du 19e siècle être très, très vivace. C'est-à-dire que les cuisiniers avaient ce problème, si je puis dire. Ils ne voulaient pas être considérés comme des ouvriers, mmh. ils ne voulaient pas être considérés comme des domestiques. Donc il y avait cette volonté d'affirmer le statut de leur profession, la noblesse de leur profession. Et quelqu'un comme Carême, d'ailleurs. Et là aussi, c'est très marquant. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui signe ses ouvrages de son nom, qui rédige de très longues préfaces pour expliquer à quel point il est artiste, pour parler de lui à la première personne. Ça, il aimait parler de lui à la première personne, quand même. Hein. Y a du jeu partout. Mais justement, cette place de l'ego des chefs, voilà bien un apport de Carême.
Ça va, ils sont rattrapés un peu. Hein, oui.
Ils sont rattrapés, mais il y a toujours ce besoin de justification, moi, d'affirmation. Ouais. C'est un combat en cours, d'une certaine façon.
Exactement. Alors, dans cet ouvrage, La grande histoire de la gastronomie, publié chez Larousse, vous démontez une foule de mythes, de fake news, comme on dit dans le langage courant. Parlons d'une femme, Catherine de Médicis. Elle n'était pas cuisinière, hein, évidemment, mais en revanche, l'histoire l'a pointée souvent comme étant l'une des personnalités qui a forgé le mythe d'une cuisine italienne et des beaux usages, notamment dans les cours françaises, notamment avec l'usage de la fourchette. Est-ce que tout cela est véridique, au fond, Loïc ?
Alors là, c'est un de mes dadas. Hein.
Ah bah oui.
C'est très simple. Dès que vous lisez quelque chose sur Catherine de Médicis et la cuisine, ouais. vous pouvez quasiment être sûr que c'est faux.
Ah, alors.
C'est-à-dire que on présente généralement, c'est une légende qui prend ses racines au XVIIIe siècle. Mmh. On a commencé à expliquer que son arrivée en France, elle arrive en 1533, elle épouse le futur roi de France, elle arrive, elle a 14 ans, mmh. le futur roi de France Henri II, et on explique qu'elle arrive avec des cuisiniers, des pâtissiers, et que finalement, la grande cuisine italienne sert de modèle, est imitée en France, et pose les bases de ce qui sera la grande cuisine française. En réalité, il n'y a pas de cuisinier avec Catherine de Médicis.
Elle n'était pas escortée par ses maîtres queues, comme la légende dit.
Non, pas du tout. On ne note aucune révolution culinaire à la Renaissance. C'est plutôt une cuisine quand même qui est toujours largement médiévale. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Cette légende prend naissance au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, elle s'enrichit. Et on se met à prêter plein de choses à Catherine de Médicis. L'invention ou l'introduction des glaces, des liqueurs, des artichauts, de la fourchette. Et si vous reprenez toutes ces histoires une à une, c'est faux. Voilà, c'est très simple. Je veux dire, les glaces, on n'en consommait pas au XVIe siècle, ni en Italie, ni en France. La fourchette, c'est un processus beaucoup plus lent, progressif. La part de vérité, c'est qu'en effet, les Italiens ont été les premiers utilisateurs de la fourchette.
C'est ça.
Ben oui, ça s'est diffusé à partir de l'Italie.
Pour les spaghettis.
Et de nouveau, Loïc, on regarde...
Mais en plus, vous savez qu'il y a cette théorie, hein. autour des pâtes. Comme quoi, ça servait notamment pour les pâtes.
Évidemment.
Il faudrait déjà qu'il y ait vraiment eu des spaghettis à cette époque-là, identifiés comme tels. Parce qu'on regarde toujours les choses, c'est un peu, finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est que quand on essaye d'inventer l'histoire, et là je parle sous contrôle de l'historien, quand on essaye d'inventer l'histoire en regardant les choses telles qu'elles nous sont parvenues aujourd'hui, on est forcément à côté de la plaque, puisque déjà la cuisine italienne au XVIe siècle n'a absolument rien à voir avec la cuisine, les cuisines italiennes. S'il y a une cuisine qui a été moins codifiée que la française, c'est les cuisines d'Italie. Donc en fait, forcément, on est à côté de la plaque. Si on s'imagine que les gens mangeaient des glaces et de la fogato au café et des spaghettis à la tomate, on est à côté de la plaque. Oui.
Absolument. Et il y a aussi, en fait, dans ces légendes culinaires qui sont très nombreuses, hein, Catherine de Médicis, c'est un cas d'école. Hein. Mm. Mais c'est la volonté, finalement, de trouver une origine, de dater, de trouver un inventeur, de trouver quelqu'un qui a introduit quelque chose. Mm. Alors qu'en réalité, c'est progressif, ou alors on ne sait pas, ou c'est flou. On a des hypothèses, et ça c'est frustrant intellectuellement.
On a le même problème avec les frites en Belgique.
Avoir une belle date et un bel inventeur.
Oui, par exemple, Popelini. Popelini, on a un petit peu de temps, peut-être qu'on aura le temps justement d'en parler. Popelini, celui que l'on considère comme étant l'inventeur de la pâte à choux, vous l'expliquez, il n'a tout bonnement jamais existé.
Non, exactement. On explique, Popelini a accompagné Catherine de Médicis et a donné son nom aux popelins. Mais c'est l'inverse, les poupelins. C'est-à-dire que ces petites pâtisseries, qui n'étaient pas des choux d'ailleurs, c'est eux qui ont donné leur nom à Popelini. Parce qu'il y a un pâtissier français qui s'appelait Pierre Lacam à la fin du 19e siècle, qui aimait bien écrire sur l'histoire de son art et qui, lui, par contre, ne s'embarrassait pas à vérifier les choses et qui faisait plutôt preuve d'invention, d'inventivité. Et c'est lui qui a tout d'un coup a lancé ce nom de Popelini et il a inventé d'autres choses de cette même manière. Merci. Donc, en effet, choux à la crème, pâte à choux, tout ce que vous voulez, je le répète, Catherine de Médicis, tout ce qu'on lui prête, c'est à 99% faux.
Oh là là, bon, d'autres mythes ou d'autres réalités concernant Vatel. On le considère souvent comme le cuisinier, hein, qui a d'ailleurs a terminé tragiquement suite à un non-arrivage d'une marée pour une très très grande soirée au sommet. Qu'en est-il ? Qui était Vatel, François Vatel ?
Bah déjà, il n'était pas cuisinier. Je pense qu'il faut commencer par là. Non, c'est-à-dire qu'il jouait ce rôle. Alors, il était contrôleur général du prince de Condé. Et prince de Condé, donc grand noble, prince du sang, qui accueille donc le roi de France, Louis XIV, en 1671, dans son château de Chantilly.
C'est ça.
Donc, être contrôleur général, ça signifie superviser, en l'occurrence, le banquet. Donc, banquet de prestige très important pour Condé. Donc, j'allais dire beaucoup de pression sur les épaules de Vatel. Et il y a cette marée, c'est-à-dire ces poissons qui n'arrivent pas. On peut supposer qu'il n'a pas dormi, Vatel épuisé, nerveusement. Bon, bref, il se suicide. On le sait parce que la marquise de Sévigné en parle dans ses lettres. Et ce sont ses lettres qu'ils font passer à la postérité, mais qui font passer Vatel à la postérité. Ouais. Mais sinon, culinairement, Vatel n'a rien inventé, n'a rien écrit. ce n'est pas un cuisinier, donc forcément, c'était... Donc, c'est presque...
Elle a scénarisé la vie de cet homme, finalement. Parce qu'elle décrit, Madame de Sévigné, cette soirée où elle voit un homme épuisé au bord du burn-out, comme on dirait aujourd'hui. Et finalement, on a l'impression que ce récit a contribué à forger la légende de Vatel. Parce qu'au fond, est-ce qu'il est si important dans l'histoire de la cuisine ? Parce que si je vous écoute, j'ai presque l'impression que... On en a fait un grand personnage, mais on était loin du truc, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs intéressant, parce que en réalité, si elle n'avait pas écrit sur Vatel, on l'aurait oublié, Vatel. C'est-à-dire qu'il n'a attention, mais il n'a pas eu d'autre mérite que de se suicider, d'une certaine manière, le pauvre homme.
Et d'inspirer un film qui est plutôt pas mal.
Avec Depardieu,
Après, faut relativiser tout maintenant,
ce qui est amusant, je trouve, c'est que cet homme, donc, qui n'était pas cuisinier, qui n'a rien inventé de particulier, est devenu une sorte d'image iconique à partir notamment du 19e siècle pour les cuisiniers, un nom de référence, alors que finalement, c'est quand même aussi un message un peu dramatique dire, vous voyez, il s'est tué à la tâche, ou il s'est tué pour la tâche, la peur de l'échec. Il y a peut-être une sorte de... d'auto-flagellation liée à l'art culinaire, à ce sacerdoce que devrait être l'art culinaire. Et c'est un message d'ailleurs assez étrange au fond que de valoriser ce vatel, parce que encore une fois, c'est pas pour ses qualités de cuisinier qu'il peut être valorisé.
Et en même temps, Loïc Bienassi, il y a pas mal de recettes qui restent encore sous ce patronage du héros, le bœuf à la vatel, le turbo en maigre à la vatel, le cabillaud en maigre à la vatel. Donc on a quand même fait de cette marque une référence finalement à la vatel.
Absolument, et on parlait de Carême. Carême adorait multiplier les appellations, donc invoquer l'histoire, les grands personnages, les lieux, les voilà. Et vatel, ça participe de cela, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, on aime utiliser des noms marquants pour qualifier les plats, parce que il faut bien des appellations, ce qui d'ailleurs, là aussi, donne lieu à des légendes. C'est-à-dire que souvent, on se met à estimer que, ah oui, cette sauce s'appelle à l'espagnol, c'est parce qu'elle vient d'Espagne. Non, c'est faux. C'est parce qu'il faut bien trouver des noms aux choses. Donc, voilà, nom de pays, nom de lieu, nom de personnage. Et bien, vatel fait partie de cet arsenal de noms que la cuisine aime à utiliser à partir du 19e siècle.
Un voyage dans le temps et dans l'assiette pour cet extrait de Bientôt à table. L'historien de la cuisine, c'est aussi l'histoire des gens à déguster sans modération sur Ovio. Voici Étienne de Crécy avec Rising Soul, un morceau qui monte en intensité. Écoutez bien. Singulière de Damon Albarn dans ce morceau d'Étienne de Crécy, Rising Soul. Un petit plongeon dans le Grand Bleu, ça vous dit, avec Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom, qui était l'invitée de Dans quel monde on vit avec Pascal Claude et ses chroniqueurs. Elle revient sur la conférence des Nations Unies sur l'océan qui vient de se terminer à Nice et pose les bonnes questions. Que faire concrètement pour protéger les océans, les poissons et ceux qui en vivent? On l'écoute.
Les podcasts de la première.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
C'est Yves Montand avec un extrait, évidemment, du chant des partisans. En quoi est-ce que cette chanson vous ressemble, Claire Nouvian ?
Je pense qu'elle me ressemble, en tout cas elle m'inspire. C'est un lieu de, non seulement de ressourcement, mais c'est un lieu de, d'émotions très intenses pour moi. Je pense que j'ai été élevée en grande partie par mon grand-père, résistant, engagé, courageux, la figure même du courage. Et je sais que...
Il vous a transmis ce devoir de résister ?
C'est au-delà de ça. Ces années de guerre ont tout changé pour eux. Une fois qu'on a connu la guerre... Plus rien ne sera jamais comme avant. Ils vivaient en fait en camaraderie intime, je pense, encore, avec toutes ces clarifications que font les époques de guerre entre les courageux et les non-courageux, les engagés et les non-engagés, voire les collabos carrément. Et je pense que ce son, pour moi, ça me relie à ça très profondément, très intimement, sur les valeurs qu'on porte en nous, sur nos principes éthiques et sur la capacité en fait à créer vraiment de la camaraderie autour de valeurs fortes qui nous constituent et qui vont déterminer notre être complètement et dans des périodes dures, dans des périodes de conflit, dans des périodes d'effondrement de l'éthique. Et je pense que
cette nous y sommes.
Période qu'on vit, oui, on y est complètement. Et je pense que vraiment, il y a toujours eu deux catégories d'êtres humains, ceux qui ont la dignité au fond de leur cœur et qui y puisent le courage, et ceux qui ne l'ont pas. Et voilà, je me relie à ça, en fait, très profondément avec ce son. Je me relie à tout ça. À chaque fois, c'est un tumulte émotionnel d'écouter le chant des partisans.
Simon, mais Claire Nouvian, justement, il y a une valeur forte qui vous constitue, c'est l'empathie, je crois. Vous dites que vous êtes d'une empathie extrême. Ça a quel effet, ça, sur votre manière de vivre ?
Mais c'est un handicap, en fait. Je pense que non, mais c'est un vrai handicap. Il faut bien le comprendre comme ça, l'hypersensibilité ou l'empathie extrême, c'est un handicap. Gaza, l'Ukraine, à l'époque la Syrie, ce qui se passe au Soudan, etc., ça génère un immense malheur. Et donc ça peut pomper mon énergie et même ma combativité. Quand je me relie aux souffrances là, de ce que vivent les Palestiniens, par exemple, ça m'enlève toute forme d'énergie, en fait. Ça me donne juste envie de mourir parce que la barbarie de l'humanité va tellement loin que ça me retire mes moyens d'action.
Gilles.
Et oui, Claire, un petit peu de latin. Qu'est-ce que le... Cla darisis nuvianae ou nuvianae, selon qu'on est latiniste ou pas.
Nuvianae, dirait les profs de latin. C'est un corail des grandes profondeurs qui a été nommé, d'après mon patronyme, par un chercheur américain avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup collaboré, qui était vraiment un complice scientifique de longue date qui s'appelle professeur Les Watling et qui est professeur à l'université de Hawaï et à l'université du Maine, qui est un grand spécialiste des coraux profonds. Et comme il découvre et décrit toutes les espèces, en effet, il passe par énormément de taxonomie et en faisant voilà, cette description, il a décidé de nommer ce corail qui est tout long et fin. Parce que lui, il est assez petit et plutôt un peu bien en point, on va dire. Et comme moi, je suis plus grande que lui et plus fine, il me voit comme un corail profond, long et maigre.
C'est un honneur pour vous ?
Oui, en fait, c'était un peu sa façon de me remercier de ce que j'avais fait pour les océans profonds. C'était de nommer un corail profond d'après mon nom.
Il paraît que vous avez, Claire Nouvian, passé une bonne partie de votre enfance à pleurer. Est-ce que vous connaissez l'origine des larmes ?
Oui, on parlait de l'empathie excessive d'une part, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir des parents dysfonctionnels, globalement, qui font qu'ils n'ont pas été aptes à nous protéger, à être présents pour nous aimer, nous structurer et nous accompagner en tant qu'enfants. Alors on s'est débrouillé avec ma sœur et en fait ce qui m'a sauvé la vie c'est mes grands-parents d'une part et ma sœur parce qu'on s'est débrouillé, c'est ce que font les enfants, c'est comme, je sais pas si vous connaissez Fifi Brin d'Acier, mais
bien
moi
sûr.
Fifi Brin d'Acier, je me suis dit mais c'est tellement, je me sens tellement proche de Fifi Brin d'Acier, je me dis voilà cette bande d'enfants et d'animaux un peu délaissés, un peu orphelins qui doivent se débrouiller et qui en tirent une grande force en réalité.
Vous aviez aussi enfant le sentiment d'être folle.
Oui, alors ça, c'est le problème de tous les gens empathiques. En fait, c'est que quand on est sensible dans un monde qui est assez brutal, qui n'est pas très courageux, avec des gens qui sont capables de faire des choses franchement hideuses, mais même à l'échelle d'enfant, et d'ailleurs l'échelle de l'enfant est l'échelle de la plus grande des brutalités, hein, ben on se dit, c'est moi qui ne suis pas normal, en fait, de toute évidence. Et c'est moi qui ai un problème, puisque ce que les gens disent, ça me fait mal, l'état du monde, ça me fait mal, alors que tout le monde continue à
s'occuper de son nombril. Et voilà, mais après, on trouve des appuis. On n'est jamais seul. Il y a d'autres gens comme vous. Et ben, ça prend un peu de temps d'agréger une communauté de partage, comme ça, d'éthique et de sensibilité.
Allez, maintenant, Claire Nouvian, partons.
Sous l'océan,
ou pour une expédition dans les abysses, mot qui aimante plusieurs de vos réalisations, documentaires, livres et expositions. C'est quoi les abysses et pourquoi ce mot, Claire Nouvian ?
C'est les grandes profondeurs de l'océan, donc c'est vraiment ce qui se situe au-delà de 4000 mètres de profondeur. Et après, de façon extensive, on appelle les abysses tous les océans profonds. Les abysses, c'est un monde à part, vraiment éloigné de notre furie, qui est beau, qui est fragile, qui est nouveau et qui mérite qu'on en parle en réalité.
Et qui vous intéresse davantage que la vie en hauteur ?
Non, en fait, toute la vie m'intéresse. Moi, ce que je déteste faire dans la vie, c'est de partir dans les pas des uns et des autres. En fait, je trouve qu'il y a tout à régler dans ce monde, il y a tout à inventer. Et si certains individus s'occupent très bien d'une problématique, je ne vois pas pourquoi je viendrais marcher sur leur plate-bande. Je préfère être utile et efficace. Et il se trouve que les abysses n'étaient pas protégés, n'étaient pas un sujet de mobilisation et de campagne pour qui que ce soit, en fait, jusqu'à ce que je m'en occupe. Et quand j'ai commencé à m'en occuper, je me suis rendu compte que c'était le même moment où, en effet, Greenpeace lançait une campagne internationale. Donc, j'ai commencé à collaborer avec des collaborateurs, justement, des individus qui étaient chez Greenpeace ou qui avaient quitté Greenpeace récemment. Mais voilà. Et en fait, c'était les seuls à s'occuper vraiment de la destruction des océans profonds à une époque où vraiment, mais littéralement, personne n'en parlait. Donc, on a été assez peu nombreux. Et j'ai fait tout ça avec mon collègue Matt Gianni, qui avant travaillait chez Greenpeace. Et c'est avec Matt Gianni qu'on a vraiment monté la campagne globale de conservation et de protection des océans profonds et qu'on a gagné à la fin.
La pollution des océans par le plastique est une crise d'envergure planétaire. Cette montée du niveau de la mer qui s'accélère, qui ne va épargner aucun continent dans les années à venir.
La surpêche océanique est un problème préoccupant. Elle a en effet des répercussions dramatiques sur la biodiversité.
La pollution des océans par le pétrole est un fléau qui affecte profondément la faune et la flore maritime.
C'est un gigantesque incendie, invisible, sous la surface de l'eau. Depuis plusieurs semaines, une canicule marine frappe l'océan Atlantique Nord.
Les océans se réchauffent de plus en plus vite. Cela signifie que les récifs coralliens vont mourir plus vite. Et c'est une menace pour la biodiversité des poissons.
Voilà un échantillon de ce que l'on entend aujourd'hui quand on évoque les océans. Quel est l'état de santé de nos océans, Claire Nouvian ?
Ouais, je pense que votre petit medley est très réussi. Ben oui, parce qu'en fait, bravo d'ailleurs, il faudrait que je le réutilise, parce que ça permet de
poser
le paysage en quelques secondes. Ben voilà, en fait, presque tout est dit, après on peut développer, mais en effet, l'océan se porte mal parce que d'abord on prend mal et on prend trop, avec des méthodes de pêche destructrices, comme le chalutage, avec des filets qui sont tirés, soit à travers l'eau, chalutage pélagique, soit avec des filets qui raclent les fonds, le chalutage de fond. C'est aussi pollué, puisqu'on prend trop et mal, mais on vide toutes nos poches, en fait.
Trop
que
de ponctions.
Soit la pollution... Alors, trop de ponctions d'un côté, et puis trop d'adjonctions, en fait. Donc, trop de polluants chimiques invisibles, comme les PFAS, qui sont absolument dramatiques. Et je pense qu'en Belgique, c'est vraiment un sujet qui touche de très près. Mais aussi avec toute la pollution organique, avec la pollution matérielle, le plastique. Et en même temps, l'océan, en effet, subit le réchauffement climatique de plein fouet, puisqu'on a déjà réchauffé les eaux du globe de environ 1 degré en un siècle. Ça paraît peu, mais c'est absolument vertigineux. Ça a déjà transformé environ 15% des courants marins. L'océan a déjà absorbé plus de 93% des excédents de chaleur. Et sans l'océan, depuis la révolution industrielle, là, la température déjà globale du monde serait